Voilà.
Dans ce journal, on va parler d'un accident sur le port, de justice. On mettra notre plus beau chapeau pour un salon et direction Moorea en fin de journal. Et ce journal, justement, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence par cet accident sur le port.
Oui, une info de dernière minute. Une poutre de 200 kilos serait tombée dans un hangar du quai des pêcheurs au port autonome, alors qu'un cargo de ciment était déchargé. On écoute Mainoui Temari, porte-parole du syndicat des dockers.
Et heureusement, c'est tombé au moment où l'élévateur passait en dessous. Et il est tombé sur l'élévateur, c'est ça que je dis heureusement, parce que sinon, c'est tombé sur quelqu'un, et ben, il va retrouver la mort aujourd'hui même. Et alors que ça fait des années que j'ai demandé qu'il y ait un coordonnateur ici, sur le port, pour qu'on puisse gérer les problèmes de sécurité du port, je veux dire, à l'intérieur, et non pas à nos entreprises, mais à l'intérieur, qu'on puisse voir quels sont les besoins.
Mainoui Temari, donc porte-parole du syndicat des dockers, qui, vous l'avez entendu, demande des comptes à la direction du port et qui dénonce des problèmes de sécurité récurrents, avec notamment un accident mortel qui avait lieu en 2019 quand un engin avait roulé sur la jambe d'un travailleur.
À côté assise, une question, assassinat ou meurtre?
Et oui, c'est la question effectivement qui se pose dans le procès d'assises de l'homme qui avait en juillet 2020 tué son rival et gravement frappé son ex-compagne. Ce matin, au deuxième jour du procès, plusieurs familles des protagonistes ont témoigné. Objectif, déterminer si l'agresseur a prémédité son geste ou pas. Si la réponse est non, les faits pourraient être requalifiés en meurtre. Il avait passé la soirée à boire avec des connaissances du quartier, une soirée pendant laquelle il avait téléphoné 52 fois à son ex avant de marcher 2 heures pour se rendre sur le lieu du crime. À la barre, il a admis qu'il s'était rendu chez sa victime avec l'intention de l'émasculer, mais pas de le tuer. Et aucun des témoins ne se souvient qu'il ait partagé cette intention. Il a répété ce qu'il avait dit hier. Dans ma tête, c'était toujours ma copine. Cet après-midi, c'est l'expert psychiatre qui sera entendu aux assises donc.
Direction Moorea pour une reprogrammation.
Oui, celle de la deuxième édition du Tae Aoti à Moorea, qui avait été annulée le 19 novembre pour cause d'intempéries et qui aura donc lieu le 3 décembre. Le premier opus en 2021 avait lui aussi été reporté pour cause de pluie, ce qui n'avait pas empêché de rassembler quelques jours plus tard plus d'un millier de personnes sur la plage de Témé, dont la privatisation, vous le savez, est au cœur de la contestation. Car si ce rassemblement se dit culturel, il est axé sur la mise en valeur de Moorea. Il s'agit surtout de manifester pour un développement raisonné de l'île sœur et contre plusieurs projets commerciaux et immobiliers. Le rendez-vous est donc donné le samedi 3 décembre à 7h30 pour un début des cérémonies à 8h30 et un départ des nageurs avec la fameuse tresse en aouti et un lancement des premières couronnes à la mer. Ce sera aux environs de 9h.
Politique avec Tony Géros qui était l'invité de la rédaction hier.
Oui, pardon, sur le plateau de Radio 1, le Tavana de Paella et président du groupe Tavini à Taraoï a notamment commenté les récentes arrivées dans le groupe Bleu Ciel à l'Assemblée avec cette question: Putaï Tae ou Angelo Frebo, démissionnaires du Tapoura, sont-ils venus du côté indépendantiste par conviction ou parce qu'ils ont senti le vent tourner?
Enfin, qui voient le vent tourner, oui, pour les prochaines territoriales, mais qui cherchent une place, je ne pense pas qu'ils vont la trouver chez nous, parce qu'on a toujours été très transparents au niveau de la composition de nos listes. Hein. Il va falloir travailler sur le terrain, il va falloir obtenir le crédit des électeurs du Tavini, et ensuite seulement, ils pourront voir s'ils pourront intégrer ou non.
Tony Géros, qui a aussi parlé de la campagne déjà lancée pour les territoriales, avec un programme qui se précise pour le Tavini, des cycles de réunions publiques déjà lancés, elle aussi des grandes thématiques sur le pouvoir d'achat ou l'emploi notamment, et puis forcément sur l'accès à la pleine souveraineté. L'autre question, c'est celle du leadership du parti pendant cette campagne. Oscar Temaru, Tony Géros ou Muetei Brotherson, la discussion est encore ouverte.
On ne se pose pas réellement en tant que tel la question quand vous me la posez, parce qu'on reconnaît l'autorité de notre président hein, dans le parti, dans tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que si au détour de cette campagne, on a besoin de réformer certaines choses, bon, on le fera. Et ce sera d'un commun accord.
Voilà, l'élu indépendantiste qui a aussi réagi au discours d'Edouard Fritch sur les réformes constitutionnelles. Il va se battre contre un moulin à vent, lance-t-il. Il a réagi aussi au discours d'Emmanuel Macron qui demande l'interdiction de l'exploitation des ressources minières des grands fonds dans les eaux internationales comme dans la ZEE. Pour Tony Géros, hors de question de saluer cette demande. Pas question non plus de se positionner sur l'interdiction avant que la Polynésie soit souveraine et apte à choisir elle-même.
La CTC n'a pas fini avec la CPS.
Oui, après un premier contrôle de la caisse paru en juin, la Chambre territoriale des comptes a fait un focus sur les très importants systèmes informatiques de la CPS. Et visiblement, le bilan n'est pas à la hauteur des enjeux, Caroline Perdry.
Oui, Charlie, la CTC relève une trop grande dépendance aux prestataires extérieurs, l'absence d'un budget pluriannuel, de nombreux programmes encore écrits dans un langage informatique ancien et des bases de données sous-utilisées pour la gestion de la caisse. Elle pointe également une grande légèreté face aux risques liés au système d'information. Il n'existe toujours pas de plan de reprise d'activité en cas d'attaque informatique et un respect encore approximatif de la réglementation sur la protection des données. Enfin, la dématérialisation tant vantée par le gouvernement n'avance que très lentement et ses implications en termes de finances, de ressources humaines et de stockage ne sont pas définies.
Merci Caroline Perdry. La Chambre territoriale incite la direction de la CPS donc à mettre les bouchées doubles dès cette année sur cette question des systèmes informatiques car la réforme de la PSG approche à grands pas.
Et puis ce salon qui a été inauguré ce matin, le salon du chapeau.
Oui, du chapeau et de ses accessoires. Une toute première édition a été officiellement ouverte donc au Hilton Hotel Tahiti ce matin, avec bien sûr beaucoup d'artisans locaux venus de tous les archipels pour démontrer leur savoir-faire et leur créativité. On vous en parlait sur cette radio. Le salon a aussi invité un invité prestigieux, Elvis Pompilio, professeur à la prestigieuse école bruxelloise. Il a travaillé avec des créateurs comme Olivier Texen ou encore Anthony Vaccarello qui ont été formés, Dior, Valentino, Thierry Mugler, Hervé Léger, Ossimar Versolato, Céline Hugo Boss, Ante Prima ou encore Chanel ou Hermès travaillent avec ce Elvis Pompilio qui a donc accepté l'invitation d'Alberto Vivian pour venir présenter sa démarche et aussi découvrir l'artisanat polynésien. Son travail le définit par son authenticité et sa diversité. Écoutez.
En fait, moi, je fais des chapeaux surtout portables, c'est-à-dire que je ne fais pas que des chapeaux de défilé, je fais aussi des chapeaux très, très portables, c'est-à-dire que je peux travailler pour la haute couture, pour Chanel, mais en même temps, je peux aussi faire un bonnet de ski ou un chapeau tout à fait facile à porter au soleil. J'aime la variété, c'est pour ça que je fais des chapeaux aussi. On peut faire des chapeaux pour tous les styles, tant qu'on a la maturité, l'ouverture d'esprit.
Elvis Pompilio, qui, vous l'avez peut-être entendu à l'accent, vient d'Outre-Quiévrain, comme on dit. Le public peut découvrir quelques-unes de ses créations aux côtés de celles d'une vingtaine d'artisans locaux depuis ce matin et jusqu'au samedi au Hilton à Faa. Mais c'est vendredi soir qu'ils seront mis à l'honneur lors d'un défilé au cours de la nocturne du salon. Chacun des exposants a également composé une pièce spécialement pour le concours qui a lieu pendant le salon. Elvis Pompilio admire la finesse des tressages différents suivant l'archipel d'où ils sont originaires. Son message aux modistes polynésiens pour plus de succès, c'est d'aller vers davantage de création. Écoutez.
Ma façon de voir le chapeau, au départ, c'est une sculpture. Donc moi, mes étudiants, par exemple, je leur apprends à travailler comme moi. Au début de l'année, ils font leur forme en bois. Et à la fin de l'année, ils ont une collection de chapeaux très personnelle avec leur forme en bois. Parce qu'il y a beaucoup de modistes qui travaillent sur des formes qu'ils achètent toutes faites. Donc pour moi, il n'y a pas de création. S'il n'y a pas une forme particulière qui est bien particulière à un modiste, c'est comme si un créateur de vêtements achète un patron, donc le modèle du vêtement, et choisis juste le tissu. Pour moi, c'est pas tellement la création.
Retrouvez les infos pratiques pour assister au défilé de vendredi sur radio1.pf ou sur le site du service de l'artisanat traditionnel.
Et puis on finit par un détour par Paris.
À Paris, où est en visite Édouard Fritsch. Le président a signé cette nuit une convention avec le président du comité organisateur des JO 2024, Tony Estanguet, qui, rappelez-vous, était venu au Fénois il y a quelques mois. Une convention qui grave dans le marbre le planning et les financements des travaux à réaliser avant que Taupo n'accueille l'épreuve de surf de ces Olympiades. On parle d'aménagement de la pointe Riri, qui sera la base arrière de l'épreuve, de réfection de la marina du PK0, de l'installation d'une tour des juges et de rénovation de l'hôtel Pounoui. Et puis du côté des sports, il y a aussi le foot qui, vous le savez, fait sa coupe du monde. Les résultats du jour, c'est l'Allemagne qui s'est inclinée 2-1 face à des solides japonais, la Croatie, qui n'a pas réussi à venir à bout du Maroc, l'Espagne dont la cote a dû faire un bond mémorable chez les bookmakers après son impressionnant 7-0, c'était contre le Costa Rica. Et puis toujours du côté des rouges, les diables belges justement se sont sortis du piège canadien. Je crois que c'était 1-0, c'était il y a une heure à peine.
Exactement. Mais alors je te corrige juste, mon cher Charlie, les Japonais, c'est les Japonais qui ont gagné.
Oui, c'est ça, 2-1.
Oui, oui. Contre
l'Allemagne qui s'est inclinée 2-1 face à de solides Japonais.
Bon, okay.
4 matchs demain entre minuit et 9h du matin. On verra rentrer sur le terrain notamment le Brésil, l'Uruguay, le Cameroun, le Portugal et la Suisse aussi pour ceux que ça intéresse. Pour la France, il faudra attendre samedi 6h du matin et ce sera contre le Danemark.
En direct sur Radio 1.
En direct sur Radio 1. Il y a des gens qui font des heures sup comme ça.
Exactement. Merci beaucoup, Charlie.
De rien. Prochain rendez-vous avec l'actu, 16h pour le flash.
Exactement.